Après cette longue partie sur le cinéma coréen, nous allons parler des autres films en salle, hein, car il y a une autre petite sœur qui est sortie ce mois-ci, et également l'un des films les plus importants de l'année, Norte de Lav Diaz, hein, dont il faut parler, malgré les gémissements de Nicolas. Alors pour juste dire qui est Lav Diaz, c'est un cinéaste qui a émergé aux Philippines au début des années 2000 avec cette nouvelle vague dont le plus connu est Mendoza, avec cette difficulté d'exportation qui fait des films d'une durée assez étonnante dans la mesure où ces films peuvent atteindre jusqu'à 10 heures comme Death in the Land.
C'est un court métrage pour lui là.
Alors, on va arriver justement à Norte. Donc, il a fait des films de 9h, 10h. Certains peuvent sortir en salle. Tous peuvent être découverts actuellement au Jeu de Paume jusqu'au 5 décembre. Et effectivement, Norte, qui a été découvert il y a 2 ans à Cannes, à un certain regard, sort en salle et a une durée relativement courte de 4h10. Hein. Donc voilà, pour lui, c'est presque un court-métrage, comme le dit Nicolas. Alors, c'est vrai que la durée peut paraître un peu rébarbative comme ça, mais je pense qu'il faut vraiment prendre le temps d'aller voir ces films. En tout cas, dans le cas de Norte, la fin de l'histoire, il y a une densité narrative qui justifie vraiment cette durée, puisque l'histoire, on la connaît assez bien, c'est celle d'un intellectuel qui décide, pour des raisons morales, d'exécuter une personne. On l'a vu dans Irrational Man de Woody Allen il n'y a pas longtemps, on l'avait vu dans L'étudiant de Mir Baef, il y a un an ou 2 ans. Donc c'est le présupposé de Crime et Châtiment de Dostoïevski que déroule un peu le film avec beaucoup plus de subtilité et de précision que Woody Allen qui se contente un peu de recycler de manière un peu mécanique ce qu'il avait pu faire. Et là, toute la beauté du film est d'avoir cette première partie qui s'intéresse à la caste intellectuelle philippine, donc c'est un étudiant en droit qui justifie le meurtre d'une vieille usurière et donc qui commet ce meurtre, et une deuxième partie qui s'intéresse plus à sa victime, non pas la personne qui est morte, mais la personne qui va être accusée à sa place de son crime, qui forcément est quelqu'un d'assez pauvre qui va se retrouver en prison. Et donc on a une coupe transversale comme ça de la société philippine.
Ça a l'air déjà chiant.
C'est un peu long, mais non, mais justement, il y a cette densité narrative qui fait qu'on ne s'ennuie pas du tout dans le film. Pour moi, aussi, voilà, pour le dire,
pour moi, il y a trois parties aussi. Il y a aussi on continue à suivre, si je me rappelle bien, on continue à suivre un peu la vie du tueur, enfin de l'intellectuel, après son acte répréhensible. Et il devient un peu fou, quoi. Enfin, je crois.
Absolument. En fait, c'est vraiment là. Alors là, t'es sur la toute fin, donc ouais, c'est-à-dire la dernière demi-heure, mais le temps est tellement dilué dans le film qu'on s'en rend plus compte. Pour moi, c'est vraiment la densité d'une série et l'intensité narrative d'une série telle que peut le faire HBO, par exemple, où on entre.
Intensité, je sais pas si on pourrait.
Il y a du meurtre, il y a toute la société philippine qui passe. Il y a notamment une heure qui se passe dans les prisons horribles aux Philippines avec un personnage de gangster qui est extrêmement atypique. Donc on n'est pas dans le film, dans le film ennuyeux.
En fait, moi, la partie que je trouve la plus intéressante, c'est tout ce qui ne concerne pas l'intellectuel, en fait. C'est toute la partie sur celui qui s'est accusé à sa place. C'est là où je vois les scènes. Tout le long du film, il y a quand même des scènes qui m'ont marqué parce que c'est quand même très bien mis en scène, il faut le dire. Il y a des idées de mise en scène dans tous les sens. Notamment cette manière de faire de longs plans séquences que l'on pense fixes, mais au final, c'est un léger travelling qui se rapproche ou qui s'éloigne pour signifier quelque chose, avec le hors-champ notamment. Et c'est très. Ouais, il y a forcément la Diaz, il ne faut pas se le cacher, ces films vont faire 9h ou 10h ou 4h ou 22h, je crois, c'est plus court.
Ouais, il y a moins de 2h.
C'est quand même un vrai cinéaste, mais après, moi j'ai l'impression que le film durait vraiment 10h pour le coup, et j'ai des moments où je décrochais complètement. Quoi. Après, ça fait 2 ans que je l'ai vu, il faudrait peut-être que je le revoie dans des conditions.
Ah, je l'ai vu 2 fois, et c'est quelque chose que j'ai pas du tout ressenti, cette impression de durée. Et...
Mais faut dire que t'aimes bien les films chiants, Vic.
Non mais, alors, ce que j'essaye de faire passer, c'est que c'est pas parce que c'est un film qui dure 4 heures que c'est forcément chiant. L'idée, c'est qu'on regarde bien des séries qui durent 13 heures, et finalement.
On les regarde pas d'affilée.
On peut les regarder en binge streaming, enfin en binge watching aussi, ça n'empêche pas le fait qu'elles soient ennuyées ou pas. La durée ne détermine pas forcément le fait que qu'on s'ennuie, le fait qu'on s'ennuie ou pas. Et le film en plus est découpé vraiment, c'est deux grosses parties plus une troisième partie qui part dans un univers beaucoup plus onirique où moi ça m'a fait penser à du Happy Chapungura, c'était cool parce que Lavias est aussi poète. Là ça peut paraître ennuyeux. Voilà, alors je dirais que ça a cette intensité d'une série américaine à la HBO. Je vais reprendre là-dessus, mais aussi la poésie qu'on peut avoir. C'est vraiment un film extrêmement important, je pense Norte, la fin de l'histoire. Et il y a cette inscription en plus de Soyevskian qui, à mon avis, justifie cette durée un petit peu élastique. Parce que si on part sur du crime et châtiment, le personnage qui est accusé à tort, donc du crime, peut aussi rappeler le prince Mishkin, qui est le personnage principal de L'Idiot. On va dire que c'est ennuyeux parce que je parle de Dostoïevski, mais en tout cas il y a ces références. Voilà, donc il y a cette figure du fait d'avoir une figure de bonté absolue dans un univers qui est extrêmement noir et qui est extrêmement corrompu. Et donc ça crée une dimension supplémentaire au film. Et franchement, avoir une adaptation de Crime et Châtiment plus de L'Idiot en 4 heures, c'est plutôt court pour quand ça condense de romans comme ça. Donc voilà, en tout cas, je le conseille. Et surtout, ce n'est pas ennuyeux.
C'est le mot de la fin.
Voilà, alors on va parler d'un autre film qui est beaucoup plus court et que plus de personnes ont vu autour de cette table. C'est notre petite sœur de Kore-eda qui est en salle depuis la fin du mois d'octobre et que vous pouvez encore rattraper si vous ne l'avez pas vu, qui veut nous expliquer pourquoi. Bon, pas Elias, je sais ouais, que Elias, Nicolas.
Moi, je suis la seconde,
quoi. Moi, j'en ai déjà pas mal parlé dans les podcasts précédents, mais je trouve que c'est un film, j'en ai parlé dans ma critique, c'est un film qui a été très fraîchement reçu à Cannes, parce que je sais toujours pas vraiment pourquoi, en fait, que soi-disant, il n'y a pas assez d'enjeux dramatiques, qu'il n'y a pas de disputes, d'éléments perturbateurs ou de choses, enfin d'éléments narratifs classiques.
Je trouve que les critiques sont un peu plus positives après la sortie du film.
C'est toujours pareil, à Cannes c'est toujours exacerbé, et puis quand le film sort 6 mois après, il y a des retournements de veste, voilà quoi. Mais je trouve que c'est un film vraiment positif, c'est-à-dire dans tout ce qui ressort des chaînes, c'est quelque chose de positif, et pour moi ça fait du bien de voir un film positif sur les relations humaines, les relations familiales de temps en temps. Et même s'il n'y a peut-être pas de moment où tu vas chialer ou de moment où c'est triste, vraiment triste parce que les personnages font face à des questionnements existentiels et tout ça, non, mais c'est pour ça qu'on s'en fout presque, quoi. C'est vraiment un film qui se vit au rythme de la vie de ses sœurs, de ses quatre sœurs. À travers ces quatre sœurs, on découvre un village, Kamakura. On découvre d'autres personnages satellites. On découvre une vie, la vie d'un village, qui est presque une ville d'ailleurs. C'est vraiment. Moi, c'est pour ça qu'on rapproche souvent Kore-eda de Ozu. C'est vraiment. Dans les films d'Ozu, moi, il n'y a pas forcément un événement dramatique ou quelque chose comme ça. Des fois, c'est juste une chronique légère qui cherche avant tout à être naturaliste et à raconter quelque chose juste à travers la vie de certains personnages sans forcément y apporter quelque chose de dramatique, quoi.
La légèreté va aussi avec des sujets qui peuvent être assez graves, ça commence par le deuil, voilà. Par l'abandon.
C'est toujours en sous-texte, c'est pareil. Voilà, et en plus, Kore-eda, par rapport au manga, il a vachement adouci ça, parce que c'est beaucoup plus abordé frontalement dans le manga, je trouve. Ouais. Alors qu'ici, il a vraiment laissé tout ça en arrière-plan. Et moi, je trouve que ça donne un peu la singularité à son film, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est un très beau film, avec des magnifiques actrices, toutes plus talentueuses les unes que les autres.
Amandine, tu es d'accord avec
Moi, j'ai adoré ce film. Je trouve qu'il met de très bonne humeur. À la fin, on sort pas. Il y a beaucoup de films, on sort après, on ne s'en remet pas de la journée. Après, on n'est pas bien et tout. Là, c'est l'inverse, en fait. Ça remet une dose de bonne humeur. C'est vrai que ça redonne foi aux relations humaines, puisque c'est quand même des sœurs. La petite sœur, c'est la fille de la femme pour qui leur père a quitté la famille et tout. C'est jamais un gros problème dans le film. Au contraire, c'est même. Elles sont sœurs et c'est le thème principal. C'est tout ce qui ressort du film et c'est vraiment très agréable à regarder en fait. On n'est jamais gêné par. On se dit jamais c'est trop long, il se passe rien pendant le film. On suit, on a envie de savoir comment est-ce qu'elles vont vivre tout ensemble, ce qui se passe et tout. Et moi, je trouve ça très, très juste en fait, très équilibré. Moi, j'ai adoré le film.
Elias ?
Bah, en fait, moi, justement, je vais reprendre un peu le côté des critiques canoises qui ont reproché au film son manque d'enjeu narratif. En fait, moi, en voyant le film, j'ai pensé à un terme qui est souvent utilisé dans l'animation japonaise, qui est le terme slice of life, donc tranche de vie en français. Et en fait, dans les animés slice of life, il y a toujours au moins quelque chose qui se passe. Il y a un événement qui fait qu'on peut tenir 13 épisodes de 26 minutes, qu'on peut s'attacher au personnage, qu'on peut faire quelque chose avec ça. Dans notre petite sœur, mis à part la plus jeune des trois grandes sœurs, et un attachement purement dû un peu à sa personnalité, à comment elle agit différemment des autres, j'ai pas ressenti l'attachement envers les personnages. Un peu, mais pas non plus flagrant, envers l'histoire. Et en fait, j'ai vu ce qui se passait avec un désintérêt assez flagrant. C'est pas un film qui est déplaisant. C'est pas un film que j'ai trouvé plaisant non plus. Dans tout Koreeda, de ce que j'ai vu, au moins, tout le moment, je me suis senti un peu bien. J'étais content et quelque chose qui se passait de touchant. Soit bien ou en mal, une espèce de chaleur que j'ai ressenti en voyant le film. Et là, j'ai trouvé ce film, en fait, juste distant. Enfin, on voit la vie d'une famille, d'une famille recomposée au Japon. On est avec eux, on voit ce qui se passe, on comprend ce qui se passe, on est content avec eux de temps en temps, on est triste avec eux quand il faut, mais c'est jamais puissant. C'est un film qui
cherche pas la puissance.
Mais c'est pas la puissance, mais c'est juste.
Moi, je me suis vraiment attaché à tous les personnages, au contraire.
Pas moi. Et en fait, c'est un film qui cherche tellement l'infime. Je cherche tellement à vous montrer quelque chose de normal que...
Le quotidien,
que moi, je trouve ça... C'est un bon film que je trouve qui n'accroche pas parce que trop peu d'histoire, parce que trop peu de caractère.
Elvin ?
Alors moi, je pense que comme beaucoup de lecteurs du manga, j'ai été un peu frustrée, forcément. Parce que j'aurais aimé que ça... Alors là, sur le coup, j'aurais aimé que ça dure 4 heures. Non. Mais si j'oublie le manga, qui m'a énormément plu, j'ai trouvé le film vraiment... très bon, et j'ai passé 2 heures en fait à me laisser bercer par l'histoire, et cette non-histoire finalement, parce que c'est l'histoire du quotidien, donc oui, il se passe pas grand chose, tout comme il se passe pas grand chose dans notre vie non plus, puisque le film commence à partir de, après le drame en fait, la mort du père, donc on suit le quotidien des 4 sœurs, et le quotidien bah, il est pas fait forcément tous les jours d'engueulades, d'événements incroyables. C'est des événements de la vie de tous les jours, donc parfois il se passe rien, parfois il y a des petites emmerdes. Mais je suis sortie du film en fait, pas forcément de bonne humeur, mais reposée en fait. Parce que moi justement j'oubliais mes emmerdes de la journée.
Puis j'ai lu plusieurs fois qu'il n'y avait pas d'évolution au niveau des personnages, je trouve pas justement, au contraire. Voilà.
T'es traumatisé par les critiques.
Ah non, mais ça m'a traumatisé. En fait, c'est Akane. Parce que moi, Akane, on se rappelle, on l'avait vu le mardi en rattrapage après tout le monde, parce que j'avais eu tellement entendu de trucs mauvais sur le film, je me suis dit, mais putain, ça y est, Koreeda s'est planté. Et au final, je découvre le film et je dis que c'est complètement dans la. Je vois que c'est complètement dans la continuité
temps,
de sa filmographie.
Dans cette perspective, on a même aimé Gus Van Sant que personne d'autre.
Aimé, c'est un bien grand mot.
Qui a disparu des calendriers de sortie d'ailleurs, depuis sa projection à Cannes.
Je crois qu'il était prévu pour 2016 au final, mais je sais pas si.
C'est mal engagé.
Aimé, c'est un bien grand mot, mais disons qu'on l'a pas trouvé aussi détestable que certains l'ont trouvé. Mais voilà, moi bon, en même temps c'est Ken, on connaît le jeu, c'est toujours exacerbé dans un sens ou dans l'autre. Mais non, mais moi je trouve que c'est. Voilà, il y a une révolution au niveau des héroïnes, forcément, puisqu'il y a, déjà entre elles, mais aussi. Parce que donc l'héroïne, l'aînée Saki, c'est un peu la mère de toutes les autres en fait. Elle a eu ce rôle depuis que le père forcément est parti, que la mère aussi est partie. C'est elle qui a pris ce rôle au sein de la famille, avec ses deux premières sœurs déjà. Et on sent son évolution par rapport à son... Tu sais, c'est un peu la plus sage, la plus stricte. Et on sent son évolution par rapport à ça, par rapport à sa relation avec ses autres sœurs. Et par rapport aussi à la façon... Tu sais, enfin, son amant, par exemple, qui est un de ses collègues, Voilà, chaque sœur en fait a son évolution propre, personnelle, par rapport aux autres. Et moi, je trouve vraiment que Koreeda arrive à allier ça, la vie en commun, avec tout ce que chaque personnage apporte à l'autre, et leur évolution personnelle, ce que ça permet aussi dans leur propre chemin.
Sachant qu'il a dû faire des choix quand même,
oui.
Parce que le manga s'attache à développer justement l'évolution de chacune des sœurs, ce qui est un peu moins le cas, mais parce qu'un film a une durée limitée, quoi. Dans le film,
ouais, mais c'est quand même assez équilibré.
Ciblé sur la sœur aînée et sur la ouais. petite sœur, les deux autres un peu moins.
Ouais,
mais ça m'a pas particulièrement choqué en fait. Comme je dis, j'aurais aimé que ça dure des heures et des heures en fait, pour que tout ce qu'il y a dans le manga soit dans le film, mais c'est impossible. Donc non, c'est un film juste en fait, qui déborde pas.
Je sais pas si tu te rappelles, mais dans le manga, il y a quand même de longs arcs narratifs sur la petite sœur aussi, Suzu, notamment avec toute la partie.
Oui,
à son collège, lycée,
collège.
Tout est très très développé dans le...
Bon bah faut attendre l'adaptation de Kamakura Diaries par la FNIAS.
Franchement, ce serait top, quoi. C'est peut-être parce que j'ai lu le manga juste avant de voir le film, donc forcément j'ai été un peu... j'ai pas été refroidie, mais forcément je me suis dit, ah tiens, j'aurais aimé que ça ce soit dans le film, et ça aussi.
En fait, tu t'es fait ta propre adaptation.
Oui, voilà, sauf que je ne suis pas réalisatrice, voir, donc, en fait, donc voilà, c'est un peu
près. Alors, on va passer aux attentes et conseils donc du mois d'octobre, novembre. Yannick, as-tu un conseil et une attente hors Asie ?
Alors oui, en conseil, ce sera Crimson Peak, film de Guillermo del Toro que j'ai énormément aimé, puisque c'est une superbe histoire qui s'inspire du cinéma gothique à l'esthétique qui est vraiment prodigieuse, un film d'une beauté magnifique, une histoire d'amour sublime, donc j'ai adoré. Donc
je crois qu'il y a Elias qui a dit what the fuck, enfin qu'il l'a mimé.
Et Elvire vient de tirer la chasse, donc je sais pas ce que ça veut, c'est vrai, symboliquement.
Je suis sûr que ça n'avait aucun rapport.
Et Yannick, as-tu une attente ?
Alors, mon attente, c'est The Visit, j'espère qu'il me réconciliera avec le cinéma de Shyamalan, qui fait de la merde depuis quasiment 10 ans maintenant.
Et ça tombe bien, puisque The Visit, c'est effectivement, c'était mon attente du mois dernier, c'est mon conseil, si vous pouvez encore le rattraper en salle. Alors apparemment, en Belgique, il n'est pas encore sorti, et en France, il doit jouer encore dans quelques salles. Et c'est vraiment le retour de Shyamalan. Bon, moi, je suis un très grand fan de Shyamalan, donc j'avais même dans After Earth trouvé quelques éléments de mise en scène qui étaient plutôt intéressants. Et là, il va vraiment vers une épure totale, une confiance absolue en ses personnages, et c'est vraiment là qu'on le retrouve. Il y a des portraits d'adolescents qui sont extrêmement touchants et extrêmement drôles. Et sinon, le film, on peut le considérer comme une espèce de d'amour d'Haneke revisité par Paranormal Activity, tout en étant bien supérieur à ces deux références par la tendresse au personnage d'un côté, ce que Haneke n'a pas, et par l'ironie et la vraie terreur que peut avoir le film, ce que Paranormal Activity n'a pas. Voilà, donc on est là sur The Visit de Shyamalan. Et quant à mon attente, ce n'est pas dans le film, mais une série télé qui est Aka Jessica Jones, qui va être diffusée, proposée par Netflix à mi-novembre. Déjà parce que Daredevil était plutôt une bonne surprise par rapport à ce que... en tout cas, par rapport aux adaptations de comics qu'il pouvait y avoir à la télévision, à la fois du côté de chez Marvel, chez ABC, ou NBC, avec Agents of Shield. ABC, avec Agents of Shield. Chez DC Comics avec Arrow, Daredevil et Gotham, ou Constantine d'ailleurs pour le coup, donc autant de choses qui sont tout à fait oubliables. Et Daredevil n'était pas parfait, mais proposait une relecture assez intéressante donc de la mythologie Marvel. Et là, Jessica Jones a cet avantage d'avoir une super-héroïne qui n'est pas du tout connue, qui a été créée par Bendis donc de manière assez confidentielle, d'être un comics assez sombre et de pouvoir proposer une lecture différente du mythe super-héroïque à la télévision. Donc ça s'annonce plutôt pas mal. Elvire, quel est ton conseil et quelle est ton attente ?
Je n'ai aucun conseil, puisque je ne suis pas allée au cinéma depuis le festival du film coréen, ni avant. Mon attente, je vais être très originale dans mon choix, puisque c'est Star Wars. Voilà, je pense que c'est l'attente de beaucoup de gens. Bonne surprise ou pas, moi, la bande-annonce qui est sortie m'a donné envie. Mmh. Après, à voir sur le film si ça vaut vraiment le coup ou pas, en fait, mais je pense y aller très rapidement dès sa sortie. Quoi.
Bon, on peut faire un sondage qui a sa place déjà pour Star Wars. Hein.
Moi.
Non, parce que... Donc il y a trois personnes. Hein.
Parce qu'en fait.
Elias, Nicolas, voilà. Et c'est ton attente, tu n'as pas ta place.
Elias. Oui, alors parce que Elias et Amandine sont étudiants, donc Nicolas, je sais pas comment ils éroulent dans son emploi du temps. Mais...
Bah, moi, c'est la séance à 9h15,
9h30.
Moi,
19h. Voilà. 9h30. Mais à 9h30, moi, je suis au bureau. Donc, voilà.
Du soir.
Et Justin, tu n'attends pas Star Wars alors.
Ah, bon, non, mais lui, il travaille pas, je peux pas lui faire.
Si, je travaille, mais pas ce matin-là.
Si, je l'attends, mais c'est pas.
J'ai posé ma matinée.
J'attends.
Alors, quelle est ton attente?
J'ai pas d'attente particulière, en fait, mais j'ai deux conseils. Alors, j'aurais d'abord le film Dope, donc de Rick Famuyiwa.
Qui n'en est pas une, donc, apparemment.
Oh là là, donc. Comment tu veux reprendre après ça?
On a vu la bouteille, comment tu vas couper ça aussi, c'était pour être...
J'en ai une autre, si tu veux.
Et donc, qui est une sorte de relecture un peu du teen movie, mais un peu à la sauce un peu de hip-hop, parce que c'est vrai que d'habitude, tous les films un peu de... qui se passe dans les ghettos, dans le ghetto black, LA et autres, c'est toujours associé à des films sérieux, à des films dramatiques, à des films un peu, voilà, Boys in the Wood, Menace to Society, et là c'est complètement différent, c'est un teen movie, mais qui joue des clichés, et puis de la réalité aussi de cet environnement, donc ça raconte l'histoire d'un personnage donc, qui aspire à sortir de ce milieu, qui est assez différent... du côté machisme, un peu, qui est fan d'ailleurs, le personnage est fan d'un geek, fan de rap des années 90, de gangsta rap. Et donc, mais malgré tout, lui est totalement en décalage par rapport à ce goût-là. C'est un personnage un peu geek, qui, voilà, tout ce qu'on associe au geek, qui aime bien la musique rock indé, les films d'horreur et autres. Enfin, voilà, c'est un personnage qui a ses deux meilleurs amis qui sont aussi un peu comme lui. Et donc il va se retrouver par un concours de circonstances que je ne vais pas détailler, mais qui va se retrouver en possession d'une grosse cargaison de drogue et qui va être obligé de l'écouler pour s'en sortir. Et donc c'est un personnage qui a des aspirations, voilà, d'aller à l'université, de sortir un peu de ce milieu d'où il vient. Donc il y a ce côté social qui est bien amené tout en jouant sur les clichés, voilà, vu que tous les personnages secondaires du film, c'est des gros bras, black, chaîne en or, voilà, toute l'imagerie du gangsta rap, et c'est le personnage-là, notre héros, qui est différent de ça. Et donc, c'est joue à la fois du teen movie, mais qui joue sur cet environnement-là, ce côté un peu grossier, mais qui est réel aussi, le danger aussi de ces quartiers, que ce soit les coups de feu, les balles perdues entre gangs, les dealers, mais tout ça dans un côté, sans négliger la réalité, tout ça en gardant un côté feel good movie, teen movie assez enlevé, c'est vraiment très très drôle. Et puis il y a un autre côté qui est intéressant, c'est le côté, le jeu un peu avec tout ce qui est médias sociaux, YouTube, Twitter et autres, quelque chose qu'avait déjà essayé de faire Michel Gondry dans The Wee and the High, dans son teen movie aussi. Et donc il joue assez bien de tout ce côté-là, tout ce côté 2.0, toute cette imagerie, même à la fois dans l'enrobage du film, mais aussi. Dans l'intrigue, vu que pour écouler la drogue, les héros vont utiliser le Darknet pour écouler les bitcoins, enfin il y a une histoire comme ça. Donc c'est très réussi, c'est assez original comme teen movie.
Et ton deuxième conseil?
Deuxième conseil, alors dernièrement depuis, je crois, début novembre, là, il y a le cinéma Les Fauvettes qui a ouvert ses portes dans le 13e arrondissement et qui se spécialise dans les... dans les ressorties, ça va être un cinéma spécifiquement dédié aux ressorties de films. Donc bon, pour l'instant, après leur programmation, c'est plus orienté années 80-90. On verra plus tard s'ils vont aller un peu plus dans le cinéma de patrimoine. Et donc là, pour les amateurs de Wong Kar-wai, les plus jeunes qui n'ont pas eu la chance de les voir en salle, donc il y a ces 5 premiers films des années 90 qui passent. Et donc normalement, dans la sélection, il y a... Je vais vous dire ça. Je vais couper.
Il y en a marre des couples.
Donc oui, voilà.
Si, si les gens ont écouté 2h30 de podcast jusqu'à présent, ils peuvent avoir 2 minutes de remplissage.
Voilà, donc il y a 5 films, voilà, les 5 très grands films des années 90 de Wong Kar-wai, hein, Nos années sauvages, Les cendres du temps qui passent en version Redux, pour moi qui est meilleur que la version seule, Chungking Express, Les anges déchus et Happy Together. Donc voilà, pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de... Et des films que vous ne connaissiez pas ou que vous les connaissiez, c'est l'occasion de voir ça en salle, vraiment que des grands films. Voilà.
Elias, attente et conseil.
Alors moi, mon conseil, c'est The Lobster, d'un réal dont je ne m'aventurerai pas à dire non, parce que c'est un grec et je ne sais pas bien prononcer les noms grecs.
Paposkoudoulouch, Tabratis.
Yorgos Latimoto, Yorgos Latimoto, un truc comme ça, qui en fait a réalisé Canine, qui est sorti en 2009, qui a fait un petit buzz autour de lui. Qui n'est, j'ai trouvé pas un film, qui est un film qui avait des idées, mais qui n'était pas assez bien fait pour garder l'attention du spectateur pendant tout le film. Ensuite, il a fait Alps, qui a été comme Canine, mais sans le buzz autour, du coup encore moins intéressant. Par contre, The Lobster, je trouve, c'est sa première aventure plus mainstream, donc des acteurs comme Colin Farrell ou Rachel Weisz. Voilà. Et en fait, donc, je trouve que c'est ce que Canine présentait, mais sans le côté un peu film d'art volontairement obscur, chiant de Canine. On retrouve un peu l'univers totalement absurde du réel qu'on avait pu voir donc, encore une fois dans Canine, mais avec cette fois une. J'irais jusqu'à dire, même si c'est un film très froid, comme d'habitude, comme tous ces films. Je trouve presque une espèce de légèreté, un humour absurde dans la première partie, qui après laisse vite place à quelque chose de plus froid et de plus dangereux et de plus un peu plus violent émotionnellement, mais qui je trouve du coup en fait fait marcher les films, fait rentrer le spectateur lambda dedans, et donc je trouve que c'est un film qui allie très bien l'univers que j'ai toujours trouvé très intéressant du réal et lui enlève en fait tout ce côté auteur autiste qu'il pouvait avoir au début et que je trouve que c'est un très très bon film, peut-être un film préféré de l'année pour l'instant, et Colin Farrell est vraiment génial dedans, c'est dire, parce que j'aime pas beaucoup Colin Farrell, et dedans il est vraiment génial. Et donc, mon attente, c'est Macbeth de Justin Kurzel. En fait, je me foutais totalement, avant de voir la bande-annonce il y a 2 jours, que j'ai trouvé magnifique.
Tout à fait,
j'ai pensé à Winding Refn, qui est mon réel préféré sur plein de plans, donc c'est dire, pour que je compare des images à celle de Winding Refn, il faut vraiment vraiment qu'elle soit magnifique, parce que c'est mon idole absolue. Et Fassbender, j'ai toujours adoré cet acteur, je pense qu'il peut très bien faire le rôle, et je pense qu'il va très bien faire le rôle. Cotillard, j'ai des réserves, mais nous verrons bien.
Comme tout le monde.
Comme tout le monde. Mais donc,
c'est une très bonne actrice, pour Cotillard.
Je
d'accord plutôt, mais...
Et donc je sais que le réal avait fait, il y a quelques années, le génial Crime de Snowtown, qui était un thriller absolument terrifiant, et d'une froideur...
C'est un peu brut, un peu trop brut sur certains trucs, mais c'est ce qui apportait un peu son charme.
Oui, c'est ça, que j'ai pu mettre un très bon film que j'ai vu dans ces dernières années. Et donc j'attends de voir ce qu'il va faire dans une production beaucoup plus grande, et a priori, au vu des premières images, ça a l'air...
C'est lui qui fait Assassin's Creed. Hein.
Oui, aussi. Malheureusement. Intéressant, je ne sais pas. Beau, ça c'est sûr.
Amandine ?
Moi, en conseil, j'ai hésité entre Mon Roi de Mai Wen, mais je vais plutôt parler d'un film allemand, vu qu'on a moins l'occasion de les voir. Ça serait Un héros ordinaire, en fait, donc de Olivier Hirschbiegel, que j'avais jamais vu un film.
Ah, LCR,
chute. Oui, voilà, je savais ce qu'il avait fait, mais je ne sais pas regarder.
LCR,
Et le film avec Naomi Watts sur Lady Di.
Oui, voilà, Diana, c'est ça, mais j'ai jamais vu celui-là. Et le film n'est pas extraordinaire en termes de mise en scène, en fait, mais juste pour l'histoire d'un héros qu'on ne connaît pas, pratiquement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un...
C'est surprenant, d'ailleurs.
Oui, voilà, il n'est absolument pas politisé à la base. Lui, il se met pas dans la résistance quand le régime nazi arrive et tout. Il y a juste un moment où il se dit « Ouais, c'est injuste, quoi. » Et du coup, il décide de mener tout seul un attentat contre Hitler. Et j'ai trouvé le thème super intéressant, au lieu, parce que la résistance, quand on en parle, c'est toujours des gens qui sont méga impliqués et tout ça. Et là, c'est juste quelqu'un qui s'en fiche, en fait. Il est au début avec ses amis, donc il va se mettre dans le parti rouge. Mais parce qu'ils lui ont dit, de toute façon, t'es un lâche qui t'engage pas. Du coup, il va faire, je viens avec vous. Mais j'ai trouvé ça vraiment super intéressant, ce point de vue-là. Un héros qu'on connaît pas, qui a, je dis pas s'il a réussi ou pas, mais de toute façon, on le sait. Voilà. Qui a tenté tout seul de tuer Hitler, en fait. Et de voir tout le film, en fait, son interrogatoire, pratiquement. Avec donc lui qui se rappelle les flashbacks avec la femme qu'il aime, etc. Et les deux officiers qui font son interrogatoire sont super intéressants. Pas très subtils, vu qu'on devine tout de suite celui qui est plus ou moins indulgent.
Et c'est le coup du gentil méchant.
Ouais, voilà, c'est un peu ça, mais qui prend tout son sens à la fin. Je ne m'attendais pas du tout à une fin comme ça, très surprenante. Donc la mise en scène n'est pas extraordinaire, sauf peut-être la première scène de torture. Je ne m'attendais pas à ça, franchement. Et du coup, voilà, un peu classique, mais très très intéressant, franchement. Et je le conseille, vu qu'on ne pense pas forcément à voir les films allemands au cinéma, mais vraiment très bon. Et en attente, je ne vais pas être originale, mais c'est Les 8 salopards de Tarantino. Parce que c'est Tarantino, tout simplement.
C'est bizarre de dire Les 8 salopards, d'ailleurs.
Oui,
on avait tellement entendu Hateful Eight.
Oui, c'est ça, films, mais.
Ça sonne moins bien.
Je l'attends énormément. Il n'y a pas Christophe Waltz, j'étais un peu déçue, mais il y a tout le monde, il y a tout le reste. Et voilà, c'est ma grosse attente.
Voilà, bon, bah, très bien.
Moi, j'ai pas aimé.
Ah oui, Nicolas, pardon. Moi, vu que tu es juste en face et qu'on a fait le tour.
Moi, j'ai envie de. J'ai des petits conseils. Donc, déjà, j'ai envie de recommander encore aux gens qui peuvent aller le voir dans les pauvres petites salles où ils sont encore projetés, les 4 films d'animation français qui sont sortis.
Ces derniers mois. 6 mois encore.
Quand je vois les chiffres du box-office, j'ai envie de me tirer une balle. Donc Moon, Phantom Boy, Adama et Avril et le Montruquet qui vient de sortir et qui malheureusement a des chiffres en premier jour absolument horribles.
Heureusement qu'elle est mignon.
Pourtant, il y a eu des affiches.
Pour l'instant, il y a une promotion, mais quand je vois encore Aladdin qui continue d'attirer des gens et qu'à côté, je vois les salles vides pour ces films d'animation français, et même pour Avril, que je pensais quand même qu'il y ait un peu plus de succès que les trois autres.
Bah, surtout avec l'univers de Jacques Tardy.
Voilà, le film sur le box-office France de premier jour, le film est 6e parmi toutes les sorties seulement. Donc j'ai envie de enfin voilà quoi, faut défendre ce genre de films, surtout que ce sont des films de qualité, ce sont des films qui sont originaux, qui ont de l'ambition, une ambition narrative, une ambition de mise en scène, et quand je vois qu'un film comme Aladdin à côté a tant de succès, moi j'ai envie de me tirer une balle et de foutre le feu au cinéma français quoi.
Avec cette suite à la 2.
Voilà, puis
déjà c'est pas le cinéma français, c'est le public.
Ouais, parce que c'est un lavage de cerveau. Quand tu vois Kev Adams qui fait le tour des 40 plateaux TV alors que les réalisateurs de films d'animation, on n'entend pas du tout parler, par exemple.
Bah non, on va pas le voir, c'est un lavage
de
cerveau.
Mais... Ça me désespère.
Il y a Marie qui fait la voix d'Avril dans mon truc.
Qui est très bien déjà. Et voilà, donc ça c'était mon premier. Donc voilà, j'avais déjà conseillé le mois dernier. Et mon deuxième conseil, donc c'est un film qui sort le 18, c'est donc La Peau de Bax. Donc c'est celui qui avait fait Borgman, qui était sorti l'année dernière, je crois. Et donc je trouve que c'est un pur exercice de style. Ça plaira pas à tout le monde parce qu'on va dire que ça raconte pas grand chose. Voilà. Mais je trouve qu'au niveau de la mise en scène, de l'absurdité des scènes, de l'humour, et la façon de mettre en scène ce duel de tueurs, en fait, c'est un tueur qui est engagé par son patron pour tuer un autre tueur. Et on se rend compte au fur et à mesure très vite qu'en fait le patron manipule les deux pour qu'ils s'entretuent. Et donc à partir de ce postulat-là, ce sera presque un lieu quasiment unique, même s'il y a d'autres lieux à côté, mais pendant presque tout le film, ça se passe sur un seul lieu, c'est une espèce de baraquement au milieu d'un lac, entouré de hautes herbes, des trucs comme ça. Et à partir de ça...
C'est lui qui a eu le prix
Nouveau Genre à l'Étrange Festival. Et donc je le recommande parce que c'est vraiment un pur exercice de style, mais c'est vraiment mis en scène avec pas mal de références au western, au film de tueur à gage des années 30, des trucs comme ça. Et c'est vraiment super. Enfin voilà, j'ai passé un super bon moment devant.
Et qu'attends-tu?
Et le film que j'attends, c'est le Spielberg, tout simplement, Le Pont des Espions, qui sort le 2 décembre. Que j'en entends que du bien de ceux qui l'ont déjà vu, donc voilà, j'ai hâte.
Bon bah très bien, je crois qu'on aura fini avec ce spécial Corée et avec ce détour sur les films qui sont sortis en octobre et novembre. Je vous rappelle que vous avez encore au moins un mois pour aller voir les films de Lav Diaz au Jeu de Paume et voir Norte, la fin de l'histoire, donc qui est encore en salle. Et on se retrouve le mois prochain pour parler de cinéma japonais à l'occasion du festival Kinotayo qui va se tenir à la fin du mois de novembre et au début du mois de décembre. See you, Space Cowboys.
Salut.
Salut. Salut.
Au revoir.
Tu aimes les ballons?